Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups humains. Cette semaine, Les impasses de la migration, une série de Raphaël Kraft réalisée par Guillaume Baldi. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce que les politiques se durcissent à l'égard des exilés qui tentent pourtant leur chance, quitte à être empêchés de travailler alors que des patrons manquent de bras. Et dans vos oreilles, aujourd'hui, un boulanger dans son fournil qui s'est mouillé pour un autre et un apprenti qui pétrit. Mais pour commencer, deuxième épisode, tout commence par un café.
Éduqué ou formé, embauché ou expulsé.
Bonjour.
Raphaël Kraft et Guillaume Baldi.
On regardait la carte.
Allez-y.
Enchanté.
Moi aussi.
Merci.
Le café, un sucre peut-être ?
Non.
Je vais vous chercher votre verre d'eau. Installez-vous.
Ma femme va arriver là.
Ok.
Je
suis Fabrice, donc le chef du restaurant, co-gérant avec ma femme. Donc on a pris cette affaire il y a 13 ans. On fait de la cuisine française, mais on ne travaille que des produits frais, on fait tout nous-mêmes. Voilà.
Donc Fabrice est arrivé entre-temps.
Carole.
Et bonjour, alors, et moi c'est Monsieur Ba Mamadou Saïdou, et je suis originaire guinéenne, la Guinée-Conakry, et j'ai 20 ans maintenant, et je suis en France depuis le 1er août 2017.
On a partagé des choses quand même avec Saïdou, moi je pratique le parapente, je l'ai emmené, et il a découvert ça. Et là, il y a une semaine ou deux, là, il m'appelle, il me dit « Chef, avant de partir, est-ce que je pourrais retourner ?» Au parapente, j'aimerais bien ramener un souvenir de liberté, en fait, voilà, je pense, hein, une sensation de liberté, quoi. Mais bon, c'est pas quelqu'un qui pleure sur son sort, hein. Il fait ce qu'il faut pour essayer de rester dans sa conduite, quoi, dans sa ligne de conduite, hein.
Comment ça s'est passé, la rencontre avec Fabrice ?
Bon, ça va, moi, je disais, ça va, sympa, parce que voilà, moi, j'étais venu, je savais même pas que j'allais trouver un patron, mais j'ai risqué comme ça de prendre mes cheveux au foyer, je suis venu directement et on a discuté un peu, ils ont pris mes cheveux. Et après, une fois arrivé ici, la dame, Carole, elle m'a appelé directement. Elle a dit que monsieur, vous pouvez passer faire votre stage quand vous voulez. Et je suis venu le soir, j'ai envoyé ma convention. Je pense que c'est la même semaine que j'ai commencé mon stage. Normalement, je devais faire mon stage pendant une semaine, mais j'ai fait 3 jours, elle m'a directement signé le contrat.
Et comment ça se passait, le boulot, ici?
Ça va très sympa et franchement, j'aimais bien. Toute l'équipe, franchement, on m'aimait bien, voilà. Au début, c'était un peu compliqué parce que moi, à la base, j'étais timide. On a un GG ici, franchement, qui me faisait toujours raconter des choses. Donc, à un moment donné, je me suis habitué avec eux et franchement, je me sentais très bien, sympa.
Il nous a tout de suite passé quelque chose, quoi. On a senti qu'il avait envie et puis qu'il était vraiment en recherche de travail, quoi, tout simplement.
C'était pas le cas des autres jeunes ?
Si, mais bon, il y avait peut-être pas la flamme, la même envie, en fait, de... Il savait peut-être pas dans quoi il se lançait, Saïdou, à cette époque. Mais on le sentait déjà motivé, voilà. Donc, je lui ai proposé de venir le lendemain, visiter notre restaurant, la cuisine, l'équipe. Et le lendemain, il était là. Donc, il est venu voir. Mais il nous a quand même fait part de ce qu'il nous avait dit la veille, c'est-à-dire qu'il avait donné sa parole à ce fast-food de rester chez lui jusqu'à ce qu'il l'embauche en tant qu'apprenti. Un mois se passe, on était toujours en recherche d'un apprenti, et Saïdou arrive de nouveau dans notre restaurant un matin en nous disant « Écoutez, chef, vous aviez raison, je suis toujours chez lui depuis un mois et toujours pas d'embauche, il peut toujours pas me prendre en formation ». Et puis, il me paye pas. Surtout, c'est ça. Ça faisait 2-3 mois qu'il était chez lui sans... Voilà. Donc, du coup, nous, on l'a pris en stage. Et puis, ça s'est enchaîné vite fait en apprentissage. Il a eu son CAP. Il nous a toujours ramené des super notes. Toujours le premier au boulot. Voilà. Nous, on était vraiment très satisfaits.
Sur qui on peut compter. Et ouais. Puis, qui est toujours, toujours agréable.
Une bonne dynamique, vraiment.
Qui s'était bien intégré avec tout le monde. Ouais. voilà, ça se passait bien, quoi.
Donc au mois de juin, début juillet, on a repris l'activité. Donc Saïdou toujours au travail, quoi, tout simplement. Une conscience professionnelle, voilà. On a un jeune qui est vraiment motivé, a toujours donné de sa personne, a toujours essayé de faire du mieux qu'il pouvait.
Il a demandé l'aide du CFA. Et en fait,
du centre de formation
d'apprentis. Et à partir de là, ça a empiré. Parce qu'il a voulu être honnête et mettre un peu les phares sur son problème au niveau de ses papiers pour régulariser sa situation. Et là, en fait, ça s'est mis en place. L'école a demandé au préfet, a demandé des comptes au préfet, plus ou moins. Et là, ils ont dit non, c'est pas bon, ses papiers sont pas à jour. Et là, son contrat, ils ont plus voulu l'accepter à l'école, tout simplement. Parce qu'il avait plus ses papiers à jour. L'école a pas voulu se mouiller plus que ça. Ils ont dit non, on peut plus l'accepter. J'ai renvoyé un courrier en disant dès qu'il avait son examen, moi je voulais bien l'embaucher à la suite de son examen. Il pouvait rester chez nous, on le gardait en entreprise avec nous, avec un vrai contrat de... Fini le contrat d'apprentissage, mais un vrai contrat en CDD. Et... Pas eu de retour. On a reçu un courrier disant qu'il devait partir du territoire. Voilà, point à la ligne, et puis c'est tout.
On n'a plus trop de nouvelles. Hein. On le voit de temps en temps errer dans Reims, faire des petits boulots. Alors je pense que c'est...
Au black, ouais.
Ouais. Voilà, tout simplement. On le voit en mode livreur. Et je pense qu'il y en a plein dans son cas, dans la même situation, qui font la même chose, quoi. Il faut qu'ils vivent, quoi. Et c'est pas, ils vont pas rester à mendier. C'est des jeunes qui ont une fierté, quoi, qui ont besoin de travailler.
Et c'est là qu'au niveau politique, c'est la bêtise, parce que vu que ces jeunes, ils peuvent pas faire un travail légal, alors qu'ils en avaient un, ils se mettent à faire des petits boulots où ils sont exploités par d'autres. Il y en a un qui a la licence et l'autre, et puis il la revend pour gagner 2 francs 6 sous, alors qu'ils ont un métier en main. C'est ça qui est fou.
Allô? Oui, bonjour, c'est Fabrice, chef du restaurant L'Alambic. Vous allez bien? Bonjour. En fait, c'était juste pour vous dire qu'on aurait aimé vous revoir pour signer une convention de stage d'une semaine, courant juillet. Enfin, quand vous aurez fini, voilà. Et pour si ça peut aller, en fait, ça pourrait aboutir directement sur un apprentissage, quoi. Si vous êtes toujours intéressé. Voilà.
Comment vous faites pour survivre?
C'est trop compliqué, mais ça va, parce que voilà, il y a toujours de bonnes personnes. Et déjà, grâce au chef et sa femme, franchement, ils m'ont beaucoup aidé. Déjà, ils m'ont laissé dans leur appartement pendant 3 mois. J'ai rien payé. Franchement, ça m'a beaucoup aidé. Et du coup, voilà, quand je travaille aussi ici, j'avais économisé un peu, même si c'est fini maintenant. Voilà.
J'ai vu que vous êtes arrivé avec un sac à dos d'une entreprise de livraison de repas.
Ouais, mais bon, je préfère qu'on ne parle pas de ça.
Oui, donc vous vous débrouillez, quoi, en quelque sorte.
J'ai fait tout ce qui est nécessaire pour survivre. Ouais. Parce que voilà, moi, je n'aime pas être attendre quelque chose, quoi, aller demander dans les associations de l'aide, qu'on me donne à manger, je n'aime pas ça. Je préfère des fois, voilà, vu que j'ai la santé et j'ai le courage, je préfère travailler moi-même pour gagner mes sous.
On veut se battre pour lui, on a essayé de se battre avec nos moyens. Mais...
Puis c'est pas dans notre nature de passer devant la lumière.
De faire la grève de la faim, comme il y en a beaucoup qui ont fait, pour justement, qui étaient exactement dans la même situation que nous. Eux, ils ont fait la grève de la faim. Nous, on a des enfants qui sont petits, on ne peut pas se permettre de faire la grève de la faim. Quoi. Ça semble bête, mais s'il faut en arriver à faire ça pour que ça marche, c'est triste. Quoi.
Ouais.
Vous parlez de Stéphane Ravaclet, le boulanger de Besançon.
Et il y a un autre encore, il y a quelques mois de ça, qui a également fait une grève de la faim pour les mêmes problèmes que nous. Un jeune qu'on n'a pas validé ses papiers parce qu'il y avait soi-disant un faux, alors que les jeunes, ils viennent bien de l'endroit dit. Quoi. Donc, c'est...
Euh,
Alexandrine Boyage, je suis avocate au barreau de Châlons-en-Champagne. J'exerce désormais depuis 4 ans et principalement j'interviens en droit des étrangers, notamment en partenariat avec l'RSF,
Réseau Éducation
Sans Frontières, qui prend en charge majoritairement de jeunes personnes qui arrivent mineures en France et qui les aide à s'insérer au sein du système français, que ce soit au niveau scolaire et après à leur majorité au niveau professionnel.
Nous avons rencontré un jeune Guinéen devenu récemment majeur, Saïdou, qui est un de vos clients. Est-ce que vous pouvez nous expliquer son parcours sous l'angle juridique, bien sûr ?
Au niveau juridique, il faut bien distinguer, il y a deux systèmes qui s'opposent. Pour les mineurs qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance, donc à l'ASE, après leur 16 ans, et pour ceux qui sont placés avant leur 16 ans. Pour les mineurs qui arrivent et qui sont placés à l'ASE entre leurs 14 et 16 ans en général, il y a à leur majorité ce qu'on appelle un titre de séjour de plein droit, c'est-à-dire qu'en principe, dès l'instant où ils suivent une formation, ils ont à la majorité un titre de séjour. À l'inverse, pour ce qui concerne les mineurs de plus de 16 ans qui sont placés à l'ASE, comme c'était le cas de Seydou, il n'y a pas cette automaticité du titre de séjour à la majorité. Et au contraire, c'est à la discrétion de la préfecture qui apprécie donc au cas par cas. Ce qui s'est passé pour Seydou, comme beaucoup malheureusement de mineurs ressortissants de pays africains, que ce soit la Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire, on rencontre le cas de manière très fréquente et régulière, en tout cas au sein de la préfecture de la Marne, c'est qu'à sa majorité, lorsqu'il dépose sa demande de titre de séjour, alors il n'y a pas de reproche sur son insertion dans la société française, sur les démarches qu'il a entrepris, hein, puisque Seydou, comme beaucoup d'autres mineurs, est parfaitement inséré, il suit une formation professionnalisante, donc il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Par contre, on lui reproche d'avoir produit un acte de naissance frauduleux. C'est-à-dire un acte de naissance qui serait faux ou qui ne serait pas valide au niveau de la législation française. A priori, des rapports qui sont faits par la police aux frontières qui indiquent qu'il y aurait des indices qui conduiraient à considérer l'acte comme un acte faux. Alors ça peut être sur l'encre utilisée, ça peut être sur une erreur de numéro lorsque l'agent d'état civil a établi l'acte, ça peut être également sur le tampon qui paraît un peu trop humide ou pas assez humide. Enfin voilà, il y a plusieurs indices comme ça qui sont utilisés par la police aux frontières. Alors ce qui est difficile à accepter pour ces jeunes-là, c'est que lorsqu'ils arrivent en France, ils doivent d'ores et déjà produire leurs actes d'état civil, notamment leur acte de naissance. Et lorsqu'ils sont placés à l'ASE, il y a d'ores et déjà un contrôle qui est réalisé de ces actes de naissance. Et lorsqu'ils sont mineurs, les actes d'état civil ne posent aucune difficulté. Donc il n'y a pas de mise en avant de ce caractère faux ou frauduleux. Ils bénéficient d'un placement sans problème. Et c'est uniquement à la majorité que survient cette difficulté, ce qui bien sûr est source d'incompréhension pour ces jeunes.
Quel est le destin de ces jeunes lorsqu'ils se retrouvent sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français ?
En théorie, lorsqu'ils reçoivent une obligation de quitter le territoire, ils ont l'obligation de quitter le territoire français sous un délai de 30 jours. Lorsqu'il y a un recours devant le tribunal administratif, ce recours est suspensif, c'est-à-dire qu'ils sont protégés de toute expulsion pendant toute la durée de la procédure. Une fois que le juge s'est prononcé, bon, soit on a un jugement favorable et dans ce cas-là, la situation des jeunes reprend son cours, mais en tout cas on a un réexamen, ce qui permet aux jeunes de continuer sa formation dans l'attente du réexamen. Et puis malheureusement, quand on a une décision défavorable du tribunal administratif et que l'OQTF est confirmée, la situation est beaucoup plus compliquée parce que les établissements sont de plus en plus réticents à faire poursuivre la formation des jeunes qui se retrouvent dépourvus de tout titre de séjour, récépissé de dépôt d'une demande ou autre, ce qui peut mettre fin tout simplement à leur scolarité du jour au lendemain. Que ce soit Seydou ou d'autres jeunes, on a rencontré malheureusement le cas dans plusieurs situations. Alors ensuite, en pratique, il est vrai que malgré l'obligation de quitter le territoire, même si les exécutions sont de plus en plus fréquentes, on a encore beaucoup d'obligations de quitter le territoire qui restent, j'ai envie de dire, au stade théorique et qui ne sont pas mises à exécution par la préfecture. C'est-à-dire qu'ils sont un petit peu dans un vide juridique à ce niveau-là, puisqu'ils sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, mais sans position administrative valable et régulière en France.
Voilà un petit peu nos rôles, nos missions, hein, parce que nous, on a donc notre première mission, c'est vraiment de vous aider à faire des études, d'aller le plus loin possible dans votre projet.
Marie-Pierre Barrière, militante.
Ensuite, la deuxième mission, bah, c'est de veiller à ce que vous ayez des conditions de vie correctes pour cela. D'accord ? Donc de créer autour de vous, de vous mettre en lien avec des Français qui peuvent vous aider, soit parce qu'ils peuvent vous héberger, soit parce qu'ils peuvent vous donner des coups de main, voilà, parce que, voilà, soit des éducateurs, des assistants sociaux, etc. Donc on fait le lien. Et puis, troisième mission, bah, si tout ça marche pas et que vraiment on pense qu'il y a un gros problème, c'est de mobiliser et de créer donc des manifestations, des moments politiques où on doit dire, où on doit dénoncer ce qui se passe, quoi. Donc déjà, moi j'ai eu un rendez-vous avec Madame Vendrich pour faire un petit peu la liste de tous ceux qui allaient sortir. Ça veut dire tous ceux qui vont être qui vont avoir une sortie sèche parce qu'ils ont 18 ans et que leur prise en charge ASE va s'arrêter. Donc sur ma liste, moi j'ai 26 noms de jeunes qui vont sortir d'ici la fin du mois de septembre. Notre objectif, c'est que vous restiez scolarisés, que vous alliez au bout de vos études et que vous ayez toujours quelque chose à faire en France. D'accord ? Je pense par exemple à toi qui a envie de travailler, qui ne veut plus continuer ses études. Si tu as des papiers et que tu as une autorisation de travail, tu vas pouvoir travailler. Mais si tu n'as pas de papier, tu n'auras pas d'autorisation de travail et donc tu ne peux pas travailler. Donc ça veut dire que dans ces cas-là, il faut rester au lycée, il faut continuer les études. Parce que sinon... En fait, la préfecture va considérer que vous n'avez plus rien à faire en France vu que vous n'avez plus de projet en France.
On a des élèves qui arrivent chez nous en première année de CAP. Ils ont 17 ans, ils ont 18 ans avant la fin de leur année de CAP. C'est-à-dire que l'année prochaine, ils repartent sur des réorientations. Et
pourquoi ?
Eh bien parce qu'on nous dit, comme ils ont 18 ans et qu'ils sont, et qu'ils vont être expulsés de leur foyer... Il faut qu'ils travaillent. Ben ça, non, c'est le discours qu'on nous tient. Non, alors c'est attends. C'est le discours qu'on nous tient. Et en fait, le discours qu'on nous tient, c'est il faut les réorienter vers des apprentissages. Et j'ai appris récemment, je termine juste, j'ai appris récemment que ça ne les aidait même pas dans l'obtention des documents.
Au contraire, il faut les maintenir dans les lycées.
Mais qu'est-ce qu'on fait quand ils sont à la rue ?
Exactement. Qu'est-ce qu'on fait quand ils sont à la rue ? Et là, on en a deux. On est en train de réorienter en apprentissage. Coûte que coûte pour leur permettre de gagner un peu de sous et de pas être à la rue.
Ça, il faut pas,
hein. Mais on voit pas quelle autre option on a en fait. Parce que les gamins nous disent, mais si on va pas en apprentissage, et c'est aussi le discours des éducateurs, si tu ne vas pas en apprentissage, tu n'as pas d'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu es à la rue.
Oui, et en fait, je le retourne. Si tu vas en apprentissage et que tu quittes le lycée et que tu te déscolarises et que ton apprentissage, ça ne peut pas marcher parce que tu n'as pas de papier, eh ben, tu n'as plus rien, tu n'as plus de projet, tu n'es plus de scolarisé et donc la préfecture, elle te mettra une OQTF à l'arrivée.
Pourquoi Marie, en fait, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas encore. Pourquoi la préfecture dit une autre chose, les éducateurs disent une autre chose, le lycée dit une autre chose, après le terrain de foot dit une autre chose, vous dites ça, c'est la loi.
C'est ça.
On ne comprend pas ça, on nous tape partout, tu vas là, on te dit c'est l'autre côté, tu vas de l'autre côté, on te dit c'est l'autre côté.
Quand on est en apprentissage, on est scolarisé, pourquoi ça ne marche pas ?
Ouais, pourquoi laisser le lycée aller en
apprentissage ? Pourquoi le lycée pro, ça fonctionnerait comme continuité d'un projet professionnel et pas le CFA ? Je ne comprends pas en fait.
Mais parce qu'il faut une autorisation de travail pour aller au CFA, et c'est bien ça le problème. Il faut un titre de séjour.
Donc ils peuvent pas aller chez le patron, ils peuvent pas travailler avec un patron parce qu'ils n'ont pas. C'est le serpent qui se mord la queue.
Et voilà, là on rentre dans un autre atelier de fabrication, mais on est plus dans la production de meubles de série, des cuisines pour des maisons pour personnes âgées, voilà. Donc les salariés qui se trouvent dans cet atelier sont pour une grande part sortie de l'apprentissage en interne à l'entreprise. Voilà, ça c'est un jeune qu'on a eu en formation.
Oui, donc Ricardo Agnesina, donc je dirige l'entreprise Agnesina, entreprise créée en 1936 par mon grand-père qui était émigré italien, qui a fui le fascisme. Qui a subi un peu de purge et ça lui plaisait pas trop, donc il s'est dit je vais réussir ma vie en France, chose qu'il a bien faite puisqu'en 1936 il crée l'entreprise qui est une entreprise d'ébénisterie d'art et qui continue à se développer jusqu'à aujourd'hui. On est actuellement 56 salariés. Et à l'heure actuelle, 65% de nos salariés sont issus de la formation en interne. Et tout type de formation, y compris du retour à l'emploi.
Parlons de Souleymane.
Souleymane Sano, donc un jeune Guinéen qui est rentré en contact avec nous l'année dernière pour faire une formation, un stage d'insertion en entreprise pour valider ses compétences et voir si on allait pouvoir faire quelque chose avec lui.
Et ?
Et ça s'est pas fait, puisque donc il a fait un mois de mise en situation sur chantier, on a refait un deuxième mois. Ça s'est super bien passé. Je lui ai dit, écoute, Souleymane, on signe un contrat. Moi, banco, ça me va. Tu as les bonnes compétences, les bonnes bases pour faire un bon apprenti chez Agnésina. Et malheureusement, entre-temps, je crois qu'il est né le 2 août. Le 2 août, il est passé majeur. Et à partir de ce moment-là, rentre un peu la période galère, c'est-à-dire l'impossibilité de faire un contrat d'apprentissage. Puisque, a priori, il s'est rendu compte que ses papiers n'étaient plus en règle. Et donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, entre guillemets, il était sûrement expulsable.
Qu'est-ce qui fait que vous lui ayez dit, toi, tu seras un bon apprenti chez Agnésina ?
Attendez, quand on a quelqu'un, en plus, on l'a eu pendant 2 mois. Donc, le premier mois, déjà, pas beaucoup de doutes. On l'a mis sur un chantier de construction d'un hôtel sur Reims. Ça s'est très bien passé, j'ai eu un retour de mon compagnon qui était censé l'accompagner, son tuteur sur le stage qui m'a fait un retour très positif. On a reconfirmé un deuxième mois parce qu'en plus ça l'arrangeait, comme ça ça lui permettait de travailler et puis encore d'être peut-être accompagné financièrement. Et là vraiment il avait toutes les aptitudes pour pouvoir faire un apprentissage, je veux dire, un gamin courageux qui se lève le matin, qui arrive à l'heure, qui a envie de travailler, qui a envie de faire un métier pour pouvoir se créer une paye. Enfin, c'est le principe de l'apprentissage, pour moi, c'est ça. Hein. Et après, ce que je lui vends, moi, c'est une carrière. Hein. Je lui dis, écoute, à l'entreprise, on a de la place pour toi, parce qu'on a du boulot. Enfin, moi, j'ai de quoi embaucher tous ceux qui veulent bien travailler et qui ont les compétences et qui ont l'envie de travailler. Et Souleymane fait partie des gens qui ont l'envie de travailler. Et je suis toujours prêt à le prendre. Je suis assez agacé parce que il y a du boulot, il y a énormément de travail. Donc qui dit énormément de travail dit énormément besoin de main-d'œuvre. Et qui dit énormément besoin de main-d'œuvre dit recherche par Pôle emploi, par les boîtes d'internes, mais enfin surtout par Pôle emploi, puisque c'est quand même le plus gros employeur de France. Et malheureusement, on n'a pas de retour ou des gens qui soi-disant sont qualifiés dans le bâtiment et quand on les teste sur le chantier, on se rend compte qu'ils savent rien faire. Par contre, à côté de ça, on a des jeunes qui ont envie de s'investir et pour qui les entreprises sont capables de donner du temps pour leur apprendre le métier.
Puis c'est plus qu'apprendre un métier.
C'est apprendre le métier. Enfin, c'est rentrer.
C'est une intégration.
C'est une intégration, tout à fait. C'est une intégration dans un domaine d'activité, dans une entreprise. C'est leur mettre le pied à l'étrier. Pour leur ouvrir les portes de leur vie quoi. Enfin donc je suis furax parce que quand on a justement des éléments comme Souleymane, on se dit il faut pas le louper parce que c'est réellement quelqu'un à qui il faut donner sa chance. Après qu'il vienne de Guinée, de Pologne, de Normandie ou du sud de la France, moi peu importe, c'est quelqu'un qui a envie de travailler et qui a envie d'apprendre un métier. Donc on n'a pas le droit de lui dire non. Pour moi, c'est assez choquant d'avoir des refus comme ça et des problématiques sur des candidats aussi bons.
Je crois que je suis resté chez lui pendant 2 mois ou 3 mois. Je travaillais en stage. Mais malgré tout ça, la préfecture ne m'a pas régularisé, quoi. Du coup, à la fin, il m'a accompagné un jour à la préfecture pour déposer mes papiers et tout ça. Mais jusqu'à présent, on n'attend pas de réponse.
Souleymane, citoyen guinéen.
Après, au foyer, nous, on nous faisait croire que faire des études pour nous ici, ça sert à rien. Faire des études supérieures, aller être médecin ou je sais pas quoi, ça sert à rien. C'est ça, il nous faisait croire, il me dit ce qui est bien pour vous. Dès que vous aurez 18 ans, vous n'avez plus d'aide. On ne sait pas si vous allez être régularisé au poids. Moi, ce que vous conseille, il faut au mieux que tu fasses un apprentissage. comprenez. C'est à ce moment que j'ai décidé de faire un apprentissage. Il y a même mes professeurs qui me conseillent, Souleymane. Ça, c'est fait pour des élèves qui n'ont pas de niveau, qui sont un peu en difficulté. Moi, ce que je te propose, il faut faire des études. Tu as toutes les capacités, tu es intelligent. Moi, je crois en toi. Tu peux faire mieux que ça. Mais après, je ne pouvais pas le dire, monsieur, je suis en situation irrégulière, tout ça. Je lui ai dit, ok, monsieur, c'est gentil, mais on verra pourquoi pas dans l'avenir.
Ouais. Ça s'est bien passé avec monsieur Agnesina?
Ça s'est très, très, très bien passé. Il voulait vraiment m'aider. Il a vu que j'étais un jeune courageux, je travaillais bien. Il a dit, j'ai besoin de jeunes comme vous. Du coup, j'ai besoin de vous dans mon entreprise, tout ça. Ouais. Il m'a vraiment... Parce que c'est lui-même qui m'a accompagné à la préfecture, tout ça. Ouais. Il me disait, t'inquiète pas, Souleymane, tout le temps, ça va aller. Il me disait ça.
Vous l'appelez régulièrement?
Non, je ne l'appelle pas parce que je suis quelqu'un de timide, moi. Je suis quelqu'un de timide. Mais je crois, il n'y a pas longtemps, je lui avais envoyé un message parce qu'il m'a dit, Souleymane, dès que tu as la réponse, appelle-moi. La réponse des préfectures. Mais vu que je n'ai pas eu de réponse, du coup, je ne l'ai pas appelé. Mais depuis ce temps-là, je travaille qu'au Black. Depuis septembre 2020 jusqu'à maintenant, je suis à du travail vu que je fais des connaissances avec un peu de monde qui sont dans le monde du bâtiment. C'est qui m'appelle s'il y a de la peinture ou des placos à faire. Il me dit, ouais, Souleymane, j'ai ça à faire, tu peux venir travailler. C'est grâce à ça que j'arrive à payer mon loyer et de quoi manger. Ouais.
C'est des grosses entreprises qui te font travailler?
Comment? Non, ce n'est pas des grosses entreprises, c'est des petits artisans. Des grosses entreprises, ça passe jamais. Non, c'est des petits artisans. Même pour avoir son argent, c'est des problèmes.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que tu peux travailler tout le mois, genre le 30 ou le 5, je ne sais pas. Tu viens de me dire, ah ouais, j'ai des trucs à payer, je n'ai pas encore été payé, tout ça, il faut que tu attends, nini, nanana. Des fois, ça peut aller jusqu'à le 20, le 25, tu n'as pas en dessous. Et pourtant, tu ne peux pas abandonner. C'est là où tu peux gagner ton petit truc. Genre, tu travailles par mois, ils te payent quoi? 300, 400 euros tout le mois. Alors, tu travailles des 8h jusqu'à 18h ou 19h des fois.
Alors, Ricardo Agnesina, vous êtes un notable dans la Marne. Votre entreprise est importante, vous êtes vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Marne, le préfet, vous le rencontrez, enfin, vous avez la chance de le rencontrer parce que nous, il a refusé. Qu'est-ce que vous lui dites et que vous répond-il?
Non seulement je suis peut-être, c'est vrai que je suis très, très investi syndicalement et dans la vie autre que mon entreprise, mais tout ce qui fait marcher le business et l'économie du territoire. Je suis également président de la CPME de la Marne. Et à ce titre, d'ailleurs, j'avais rencontré le préfet pour parler du plan de relance courant septembre 2020, et où j'en avais profité. J'étais venu avec mon dossier sous le bras de Souleymane. Et je lui avais dit, écoutez, il faudrait regarder, parce que ce gamin-là, faut lui donner sa chance. Là, il est majeur maintenant. Il n'y a plus aucune aide, il n'y a plus aucun soutien, il n'y a plus aucun suivi. Je lui ai dit, c'est vite fait de tomber dans la délinquance. Donc, et depuis le mois de septembre, j'ai pas de retour. Donc, je sais qu'il devait faire le nécessaire. En tout cas, il devait se renseigner pour voir si les nouveaux papiers qu'avait fournis Souleymane à la préfecture pour faire renouveler ses papiers qui étaient effectivement périmés. Depuis, j'ai plus aucune nouvelle.
Il y a un mouvement national qui est en train de se créer sur les patrons en colère vis-à-vis de ces situations. Est-ce que, pour l'instant, votre engagement se limite à une individualité? Ce qui est très classique, d'ailleurs, sur les questions migratoires. Beaucoup de gens ont un premier contact avec cette question par la proximité d'une problématique. Est-ce que vous seriez prêt, à terme, à vous engager et à cette fois aller voir le préfet pour lui dire « Écoutez, il y en a marre ».
Ouais. Alors je sais pas. En tout état de cause, je pense que si on doit donner la chance à des personnes étrangères comme ça, qui sont là, soit réfugiés politiques, il faut quand même se border et être sûr qu'on a bien les bons éléments, que c'est la bonne personne, qu'elle est à l'endroit qu'il indique, etc. Je veux dire, c'est Moi, c'est ce que j'ai cru comprendre dans l'entretien que j'ai eu avec le préfet. C'est-à-dire qu'ils ont quand même, une grosse peur d'avoir quand même à intégrer en France des gens qui sont pas ceux qui disent d'être, et puis éventuellement nous apporter des problématiques. Moi, je suis d'accord avec ça. Je dirais qu'il faut pas qu'on soit une terre d'asile ou...
C'est-à-dire que vous, Ricardo Agnesina, fils d'antifasciste, enfin petit-fils d'antifasciste, vous croyez à la fable selon laquelle il se cacherait des terroristes parmi les... Bah si, c'est ce que vous me dites. Vous buvez les paroles du préfet, là.
Non, je bois les paroles qu'il faut vérifier, qu'il faut vérifier l'identité.
C'est
et
un cache-sexe,
La justesse de l'identité qui est présentée par l'étranger, ça me paraît une grande logique. Mais il y eut un temps quand on avait besoin de main d'œuvre. Je vous rappelle les grandes périodes migratoires du bâtiment. Quand on a eu besoin de monde pour travailler, c'était simple d'accueillir 5 Portugais à la gare de Reims. On allait les chercher, les papiers étaient faits en 5 minutes. Donc alors c'est sûr, c'était les Portugais, mais on l'a fait aussi avec les Algériens, les Marocains. D'ailleurs, j'en ai encore un chez moi qui est issu de l'émigration, alors qui est plutôt c'est la deuxième génération. Mais globalement, on a été capable de donner la chance quand on avait besoin.
Et là,
je pense qu'on a besoin. C'est pour ça que globalement, moi, je trouve qu'un geste fort de toutes les entreprises qui recherchent et qui trouvent pas, ça serait de demander à faire appel à l'émigration massive, parce que aujourd'hui il y a du boulot.
Bruno Forget, présidente de la foire de Châlons en Champagne. Lorsque je vous ai eu au téléphone et que je vous parlais de l'objet de notre présence ici dans la Marne, vous m'avez répondu que vous osiez prétendre avoir des choses à dire sur ce sujet. Et ce sujet, en l'occurrence, il s'agit des jeunes majeurs étrangers qui sont en situation d'apprentissage et qui perdent leur apprentissage faute de papiers non fournis par la préfecture.
C'est une hérésie. Moi, ici, nous sommes dans le pays de Turgot, pays de montagne, pays de la tolérance, des droits de l'homme, 5e puissance du monde. Aujourd'hui, on vit une véritable hérésie où j'ai un cas précis, puisque je vais recruter probablement cette personne pendant la foire, qui a tous les éléments, je dirais, parle français, habite dans un appartement, une vie sociale, tout ce qu'il y a de plus français, si j'ose dire, qui ne peut pas avoir de boulot parce qu'elle n'a pas de papier. Et cette personne n'a pas de papier parce qu'elle ne peut pas fournir un certificat d'employeur. Et là on se pince, il faut s'indigner.
Cette thématique, est-ce que vous l'abordez avec le préfet? Vous êtes un notable, vous rencontrez le préfet de temps en temps, vous lui en parlez. Est-ce qu'il y a matière à faire pression? Est-ce que vous êtes dans un environnement comme la Marne où vous pouvez rassembler des patrons et leur dire, écoutez, ça suffit?
Oui, évidemment, ce sujet doit être abordé. Puisqu'aujourd'hui, vous avez des entreprises qui ne peuvent pas se développer, des TPE s'entend, des entreprises ne peuvent pas se développer par manque de main-d'œuvre. C'est-à-dire, pas de main-d'œuvre, pas de richesse, on est bien d'accord. Et aujourd'hui, on a une solution, elle est devant nous. Ah, mais simplement, l'article 42, alinéa 3, paragraphe 4 et 5, vous l'interdit. Bah, supprimez-moi l'article. La foire de Châlons, elle marque vraiment la rentrée hexagonale. Ça, c'est tous les ans, c'est comme Noël. Sauf que celle-ci, on la veut sous le signe de la renaissance, de la reprise. Aujourd'hui, la foire de Châlons, elle a cette capacité de porter haut les messages. Nous attendons les premiers personnages de l'État, en réalité, plusieurs candidats comme il y a 5 ans. Et ça fait partie des messages qu'on doit leur donner. Si les entreprises veulent se développer, il faut de la manœuvre. S'il faut de la manœuvre, il y a peut-être des règles à changer.
Bon, c'est vrai que on aimerait parfois que des gens qui ont plus de pouvoir que nous, militants bénévoles, donc qui sont des acteurs,
des notables,
ou des acteurs économiques du territoire, quoi, puissent actionner des leviers, faire pression, être plus peut-être.
Marie-Pierre Barrière, membre du réseau Éducation sans frontières.
Plus militants eux-mêmes pour qu'on puisse nous-mêmes. Se sentir un peu assurés et puis faire avancer vraiment nos, nos questions et améliorer la situation de ces jeunes, quoi. Ça, c'est clair que c'est un peu l'ambition d'ailleurs de cette association qu'a créée Stéphane Ravaclet, le patron de Besançon, qui s'appelle Patron Solidaire, et avec laquelle on aimerait bien, nous, en tant que militants, des collectifs locaux, pouvoir s'associer pour pouvoir justement faire campagne ensemble, quoi, et créer un collectif suffisamment fort pour que un rapport de force puisse s'instaurer, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, quoi.
La militante que vous êtes, qui se met à fréquenter des personnes que vous ne fréquentiez pas auparavant et qui soudain sont sensibilisées à des causes, vous leur reprochez d'avoir une démarche plus humanitaire que politique.
Oui. Oui et non. Enfin, moi, je pense que tout est bon à prendre. Enfin, je veux dire, il faut qu'on. Si les gens peuvent s'éveiller à la question, je pense. Enfin, vraiment. C'est 1 plus 1 plus 1. On y va pas à pas. Il faut que un maximum de personnes. C'est pour ça que le local, il est hyper important, parce que c'est la proximité, en fait, qui met les gens c'est les rencontres qui mettent les gens en mouvement. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est hyper important que ça se passe, ça. Qu'un patron puisse prendre conscience tout d'un coup que l'apprenti qui veut former se heurte à cette problématique migratoire, ça peut pas se passer autrement que par la rencontre avec lui. J'ai pas envie de juger qui que ce soit. Je me dis que c'est bien que tout le monde se mette en route. Après, encore une fois, chacun son boulot, quoi. Et c'est pas le boulot des patrons que de faire des programmes politiques. Et c'est peut-être un peu plus le boulot des militants, mais sans aide sans élan constructif qui peut venir d'au-dessus, on n'y arrivera pas tout seul, quoi. Nous, on est trop pressurés.
Mais en même temps, tous ces patrons de PME qu'on a rencontrés ici dans la Marne, tous ces notables, ils rencontrent les candidats. Ils sont proches des députés ou des conseillers départementaux ou régionaux, majoritairement de droite ici. Et ce sont des gens de droite qui disent à des gens de droite, écoutez, nous, on a besoin de main d'œuvre.
Bah oui. Et donc voilà, oui. Que faire?
Pendant ce temps-là,
17 juin 2021,
à Besançon,
conférence de l'association Patron Solidaire.
Voilà le combat de ce boulanger pour son apprenti guinéen Lai, parce qu'il est désormais majeur, il est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire depuis le 3 janvier.
Je me présente, je suis Stéphane Ravaclet, je suis boulanger depuis 24 ans à Besançon. Et je vous présente Lai, qui est arrivé dans mon entreprise en septembre 2019. Et je me bats à l'heure actuelle pour que ce gamin reste en France et ait des papiers français. Je suis en train de faire une grève de la faim depuis le 3 janvier. L'humanité, elle n'est pas sur un retour au pays à 18 ans pour le seul fait d'avoir 18 ans. Sinon, faut laisser le bateau couler et on regarde ailleurs. Enfin, voilà, je ne suis qu'un simple boulanger, mais je pense qu'il y a des choses qui sont un peu incompréhensibles. Ces gamins représentent l'avenir, quoi, en fait. Si on ne fait pas quelque chose d'exceptionnel à un moment donné de sa vie, il y en a qui achètent des Rolex à 50 ans. Moi, je veux la liberté pour un gamin.
Eh ben, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus à ce premier événement de l'association de Stéphane Ravaclet, Patron Solidaire, en partenariat avec Change.org France. Et on avait vraiment envie de vous rencontrer et de transmettre les clés de réussite d'une campagne de mobilisation, peu importe le sujet. Là, c'était l'immigration, mais en tout cas un sujet qui vous tient à cœur.
Il y a une autre question dans le public. Stéphane.
Alors, c'est pas une question, c'est une réflexion. Je suis Fabienne Nador, je travaille au CFA Pays de Montbéliard-Betoncourt, près de Montbéliard-là-haut, et je suis membre du comité Abacar, qui a été créé suite à l'expulsion de notre apprenti cuisinier. Alors, il a d'abord été obligé de démissionner de son emploi, puisqu'il n'avait plus l'autorisation de travailler. Il était aussi à la rue, puisque l'ASE, à 18 ans, ne les héberge plus. Donc, nous l'avons hébergé pendant plus d'un an au CFA à titre gratuit. Nous avons suivi son parcours avec les différents tribunaux, les différentes cours d'appel, etc., pour finalement que son avis d'expulsion soit confirmé. Et un jour qu'il allait pointer à la gendarmerie de Betoncourt, il a été embarqué manu militari au centre de rétention administrative de Metz, où il est resté plus d'un mois. Et ils l'ont mis dans un avion pour Conakry.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Bonsoir. Alors moi, je suis Marie-Pierre. Je viens de Châlons en Champagne et je suis membre de plusieurs associations de défense de migrants, dont le réseau Éducation sans frontières. Je m'interroge vraiment sur le rôle de ces actions individuelles. En fait, j'entends très bien, Sarah, ce que tu dis sur la mobilisation personnel, sur la contagion de cette espèce d'énergie collective qui nous prend tous. Moi, ce qui me pose question vraiment aujourd'hui, c'est de me dire, mais où sont les projets de société qui permettraient l'inclusion de ces jeunes? Et comment on fait la bascule? C'est-à-dire, comment on monte à l'échelle de nos militantismes personnels, de nos engagements individuels ou collectif dans nos associations, dans nos réseaux, etc. Comment on fait pour qu'à un moment, on aboutisse à un projet de société qui nous ressemble et qui nous fédère, quoi.
Bonjour.
Bonjour.
C'est vous, ma surprise ?
Raphaël.
Merde. Bonjour.
Vous êtes qui ?
La chef boulangère. Attention, je vais descendre.
Ouais. Vous êtes guinéen, hein, c'est ça, Lai?
Oui. Ouais.
De quelle région, en Guinée?
À Conakry.
Conakry?
Ouais.
Et vous êtes parti en prévenant vos parents ou sans les prévenir?
Bah, y a ma daronne qui était au courant. Ma mère.
Était au courant. Mais seulement votre mère. Ouais.
Vous parlez fort, Maï.
C'était une question de polygamie?
Non.
Vous avez été confié?
Oui.
Voilà.
Après, c'est pas mes vrais parents aussi, tu vois.
C'est pas vos vrais parents, d'accord.
Ouais.
Et vous êtes parti pour quelle raison?
Bah, parce que je m'entendais pas avec son mari.
Bah voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites là, Lai?
Là, je vais diviser le reste des baguettes de l'ordinaire. J'avais divisé les premiers, ça c'était les commandes. Du coup, je termine le reste. Ça, c'est la néograine pour demain.
C'est le?
La néograine pour demain. D'accord. Que j'ai lancée aujourd'hui.
Et avec quoi dedans?
Avec du sel, levure.
Quoi, t'as mis le sel? C'est bien, mon gamin. Et quoi comme graines dedans?
Il y a pavot et lin.
Alors, un apprenti trop en forme, de toute façon, au début, c'est toujours un poids.
Ah oui?
Ah ouais, toujours. Parce que en boulangerie, il faut se lever super tôt. Et un apprenti, il faut le surveiller quand il fait des trucs, mais quand il fait rien aussi. C'est vrai qu'en plus, il a pas mal de taf au niveau des pâtes ce matin, on prépare le week-end, donc ce serait dommage qu'il y en ait une qui soit loupée, quoi.
Ouais.
Pour ça, pareil, j'ai lancé 4-5 pâtes en arrivant ce matin pour alléger un petit peu.
Ouais. Mais globalement, vous êtes satisfaite?
De l'œil?
Ouais.
Eh oui, c'est un bon gamin. T'as lancé les burgers, gamin?
Je comprends pas la hiérarchie. Stéphane Ravaclès, c'est le grand patron?
Alors, c'est le chef d'entreprise et... Okay. Donc moi, je suis une apprentie chef d'entreprise.
Okay.
Pour l'instant, je viens de finir mon diplôme d'abord. J'ai fait les dernières épreuves hier. Donc on attend le résultat.
Vous êtes plutôt bon élève?
Ouais. J'ai de bonnes notes.
On se débrouille pas mal un peu en français aussi, tu vois.
Mais vos rêves, c'est quoi? D'ouvrir une boulangerie à vous?
Ouais.
Je m'appelle Stéphane Arvaclet, je suis né à Besançon, je suis boulanger depuis 24 ans au 11 rue Rivoite à Besançon.
Comment s'appelle la boulangerie?
La Huche à Pain.
On fait quoi comme pain à la Huche à Pain?
On fait beaucoup de pain bio, on fait tout au levain naturel, on fait tout ce qui est viennoiserie, on nous faisons nous-mêmes nos croissants, heureusement, ce qui n'est pas toujours le cas, et voilà.
Et vous livrez pas mal les restaurants de la ville?
On a une vingtaine de restos qui prennent notre pain, oui, sur le centre-ville.
Comment vous voyez débarquer le jeune Lai?
Alors en fait, quelques mois avant son arrivée, j'ai fait un article sur l'Est Républicain, qui est notre journal de la région, comme quoi on ne trouvait pas d'apprentis et que c'était véritablement sur la Franche-Comté, sur toute la France, mais en Franche-Comté. Et j'ai bien fait comprendre que tout le secteur manquait, dont moi. Donc j'ai une association qui est venue, enfin j'ai plusieurs associations de migrants qui sont venues vers nous. Et donc j'ai vu toutes sortes de personnages, dont Lai. Et donc est arrivé Lai, et pour la petite histoire, en fait j'étais à mon bureau et je devais donner un papier à ma collaboratrice du magasin. Et je tends le papier à ma collaboratrice, et en fait Lai l'a pris et l'a donné au magasin. Donc je me suis dit, tiens, toi t'as des idées, Donc voilà, j'ai dit à cette tutrice, ben je le prends en stage quelques semaines et puis après on verra ce que ça donne. Et j'ai pas eu besoin de faire plusieurs stages, j'ai fait une semaine. Et j'ai dit oui, mais c'est bon, on fait le contrat d'apprentissage.
Et ensuite dans son travail, il donnait toute cette satisfaction?
Oui, c'est quelqu'un qui écoute. Alors c'est un môme, hein, c'est pareil, hein, il fait autant de bêtises qu'un Européen, hein, faut pas rêver, il oublie le sucre, la levure, machin, comme un môme. Et il pense plus au foot, aux filles qu'à la boulangerie, c'est normal, mais...
Un peu comme vous, quoi.
Bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais non, mais voilà, on lui donne la même chance qu'aux autres, et il a su l'attraper, et non, mais on est pleinement satisfait. Voilà, il vient au travail à l'heure, c'est tout ce qu'on lui demande.
Et puis que se passe-t-il?
Alors le 25 novembre, il se passe que sa tutrice m'appelle, comme quoi la gendarmerie de Haute-Saône, puisqu'il dépend de la Haute-Saône, est arrivé et que on lui a délivré une OQTF, c'est-à-dire une obligation de quitter le territoire. Donc là, ça devient problématique, parce que moi, je n'étais pas au courant, et que je me voyais pas, déjà humainement, renvoyer un gamin à qui on a donné sa dernière chance, en fait, en gros. Hein. Et puis surtout, de faire partir un tiers de mon personnel au sein de mon fournil. Donc il y avait deux problématiques. D'où un peu ma révolte et de me dire il faut faire quelque chose, j'ai un mois pour faire quelque chose, et en plus donc je vous donne la date, hein, véritablement le 25 novembre, donc ça donnait le 25 décembre.
Ouais, 25 décembre.
Que faire contre un État, que faire contre des administrations? Je suis pas un révolutionnaire, hein, je suis un boulanger un peu ventripotent, je me vois pas faire j'ai beaucoup réfléchi, des amis ont mis en route une pétition sur change.org. Et puis moi, il fallait vraiment que je fasse quelque chose de palpable, parce que je suis boulanger, donc il me faut quelque chose de palpable. Et je me dis, dans le paysage médiatique, on voit plus du tout le grève de la faim. Le 2, il partait, parce qu'on était arrivé en fait à faire bouger d'une semaine la sanction. Donc le 2 janvier, il part. Et le 3, je lançais ma grève de la faim. J'invitais l'Est Républicain à venir me voir pour le premier jour de la grève de la faim, et c'est la boule de neige a fait un iceberg, ça a pris de l'ampleur extraordinairement, hein, véritablement. Donc voilà.
Et donc le 2 janvier, vous avez dû arrêter de travailler, et le lendemain, votre patron s'est mis en grève de la faim, c'est ça?
Oui.
Vous lui avez dit que c'était pas raisonnable?
Moi je l'ai dit.
Moi j'ai vu sur les réseaux sociaux.
Ah, t'as appris ça par les réseaux sociaux?
Oui, parce que mon patron il m'a pas dit qu'il allait faire grève de la faim.
Et quand vous avez appris ça, qu'est-ce que vous vous êtes dit?
Moi j'ai pensé à sa santé. Parce que moi je sais qu'il est malade.
Donc j'ai tout de suite pointé à ça d'abord. Et après il m'appelait pour me rassurer. Il m'appelait pour me rassurer. Pendant le grève de la faim, j'étais chez moi. Et la préfecture nous a demandé la double légalisation de mes papiers.
Okay.
Et on est parti à l'ambassade pour aller faire la double légalisation de mes papiers.
Et ça a marché?
Oui. Mais c'était à chaque fois, mon patron aussi m'appelait pour me rassurer. Soi-disant, ça va aller. Faut pas que je vais être découragé de ne pas baisser les bras, quoi.
Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de sa démarche, de son geste? Vous vous êtes dit quoi? Il est fou?
Non. Bon, après, je m'attendais pas à ça aussi.
Et d'où elle venait, cette sensation de bonheur?
Alors, la sensation de bonheur, c'est... Le fait qu'en 11 jours, j'ai reçu 350 journalistes, que ce soit en direct ou par téléphone. Je me suis nourri sur la bête, déjà sur moi-même, mais aussi par le fait qu'on ait compris mon combat et qu'on soit venu me voir, en fait.
Comment s'est passé le dénouement de cette histoire?
Alors, comment? Donc, on arrive au 11e jour de la grève de la faim et au 10e, même la veille, la préfecture de la Haute-Saône nous téléphone et nous convoque. On nous convoque. Donc, monsieur Lio, c'est bon si on nous convoque. Et en fait, ils ont aussi téléphoné à l'AI puisqu'ils l'ont convoqué aussi. Donc, il m'a rappelé après. Il me dit qu'est-ce que ça veut dire. J'ai dit mais ça sent bon. Et donc le lendemain, on part à deux voitures parce que sa tutrice venait. Et au milieu du trajet, en allant sur Vesoul, une rédaction me téléphone pour me dire dans une demi-heure, toutes les rédactions auront ce que je vais vous dire, là il est régularisé. Et donc évidemment, explosion de joie dans la voiture et on savait déjà en arrivant à la préf que ça allait bien se passer.
Et ça s'est bien passé.
Ils lui ont donné une carte de travail de séjour d'un an, renouvelable après ses 3 ans et 5 ans, et à partir de 5 ans, il peut demander sa carte d'identité. Voilà.
Bon, finalement, vous avez été régularisé et j'imagine que ça doit être un immense soulagement pour vous.
Oui, oui. Beaucoup. Là, j'ai reçu ma carte de séjour.
Ça veut dire que vous pouvez voir la vie plus sereinement, plus tranquillement? Vous avez un appartement, une copine?
T'as le droit de répondre avec des mots à 2-3 leurs questions, là, je t'autorise.
Ouais, j'ai un appartement, mais c'est sur le compte de mes éducateurs.
D'accord, ok. Qui vous aide?
Oui.
Ça doit être lourd à porter, ça. D'avoir tous ces gens qui vous aident et une patronne derrière qui vous engueule.
Ah, mais voilà. S'il voit quelqu'un en fauteuil roulant, je ne vais pas le traiter comme un handicapé. Là, il ne sait pas parce que c'est une star que c'est moins un apprenti. Ah, mon gamin.
Il est bon votre pain?
Comment?
Il est bon votre pain?
Ben oui.
Pas très content, il y a un fronton.
Dès le 4 ou 5 janvier, j'ai reçu énormément d'appels de patrons qui étaient dans la même problématique que moi. Et ça m'a posé question, je me suis dit, bon, alors je le savais, au profond de moi, je savais qu'il y avait des milliers de l'ail en France. Mais je m'étais jamais évidemment posé la question. Et là, je me suis dit, bah, il faut faire quelque chose pendant que les médias sont là et que le fer est battu. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, dans ma tête, j'ai eu une vision d'une association pour venir en aide à ses patrons avec une autre technique qui a donné raison en fait au combat. Et donc voilà. Donc en fait, on a répondu tout de suite à tous ces patrons et en fait on a créé une association qui s'appelle Patrons Solidaires. On nous retrouve sur Facebook, Instagram et tous les réseaux sociaux. Donc voilà, et on répond en fait aux questions, on se dirige vers les patrons qui viennent vers nous, on leur explique comment faire, les médias, etc., les pétitions avec change.org. Et voilà. Et donc on répond dans la journée à la première question.
C'est marrant parce que vous dites comment faudrait faire pour. Vous dites qu'il y a des milliers de lailles en France et spontanément vous dites comment on fait pour aider ces patrons. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une détresse. Il y a une détresse des patrons.
Oui. Il y a deux détresses. Hein. C'est un patron. Enfin, une entreprise, c'est souvent un duo hein, parce qu'elle est très petite entreprise. C'est 1, 2, 3 employés, dont un apprenti souvent. Donc voilà, il y a déjà une problématique de migrants, mais il y a aussi une problématique donc d'humanité en premier lieu, et il y a une problématique d'emploi d'entreprise et donc d'entrepreneurs qui se disent waouh, je fais quoi moi? On m'a donné un gamin, enfin donné entre guillemets, pour lui faire apprendre un métier et on me le retire après, enfin c'est ubuesque. Et donc voilà, donc on aide les deux en fait, en aidant un on aide l'autre.
Alors il y a cette dimension humaniste évidemment, mais il y a aussi une question tout à fait pragmatique, c'est qu'il faut des bras quoi.
C'est ça, les bras on les a plus, et quel que soit l'artisanat hein, parce qu'on sait très bien que dans le TP on a du mal, et dans la restauration c'est pareil, et dans bien d'autres problèmes. Donc, nous, si il nous manque 9000 places, 9000 emplois, employés, il en manque, je pense, autant, voire plus, dans les TP, etc.
Les travaux publics.
Dans les travaux publics. Et donc, forcément, on a besoin de bras, comme on en a eu besoin dans les années 60 dans nos usines. Et donc, forcément, il faut faire venir quelqu'un si les autres ne veulent pas travailler.
Mais en même temps, pendant qu'il y a un lail qui est régularisé grâce à une campagne massive, une grève de la faim, il y en a 10 autres qui sont expulsés.
Mais je pense sincèrement qu'on ne peut pas sauver tous les gamins, ça je le sais, et c'est un discours qu'il faut entendre. Mais on en sauve, là on a dû en sauver depuis le mois de janvier, on a peut-être dû en sauver une cinquantaine. Mais voilà, c'est un combat tous les jours, et c'est un combat... c'est le travail qui fera que ces gamins et aussi les rendre visibles. Si on rend visible le gamin et qu'on dit à tout le monde, ben en fait il prend la place des personnes parce qu'on ne trouve pas d'employé, ben pourquoi voulez-vous le faire partir? Enfin voilà, la logique voudrait. C'est pour ça qu'on y travaille. Alors moi j'ai jamais posé de problème à personne et en fait c'est la première fois où je me lève pour dire non. Donc, c'est comme la grève de la faim, c'est comme de dire je vais faire la grève de la faim. J'ai pas vraiment, enfin, je savais qu'on combattait quelque chose, des normes, mais je pense que je suis certainement un peu simple et je me suis pas vraiment rendu compte que ça pouvait être terrible. Et en fait, ça m'a donné une certaine, liberté, de dire, cette fois-ci, je me lève et je viens vers vous pour vous dire ce que j'en pense. Et je pense que c'est la première fois que j'ai eu cette sensation-là.
Ça vous a fait du bien?
Ah oui, ça change la vie en fait presque.
C'est-à-dire?
En fait, on se dit que tout est possible et que je, sincèrement, je vais vous dire une confidence, je pense que j'ai une deuxième vie depuis le 3 janvier.
C'était éduquer ou former, embaucher ou expulser, coordination Perrine Kervran, attachée d'émission Marivonne à Bolivier. Un documentaire pour LSD de Raphaël Kraft et Guillaume Baldi. Remerciements à Marie-Pierre Barrière pour son accueil.
LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Toutes les informations sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivona Bolivier, Anaï Morales et Annelise Signoret. Et pour nous écouter en pétrissant la pâte, c'est sur l'application Radio France. Demain, troisième épisode, les femmes migrantes et les femmes aidantes. Mais en attendant, restez à l'écoute.